Bonjour, vous êtes bien sur Radio FM+, vous écoutez Le Fil du Fer avec aujourd'hui Marc Delahaye. Bonjour Marc.
Bonjour Lionel.
Alors, on est en enregistrement en extérieur, je vais te tutoyer parce que nous nous connaissons et que ton portrait, ton profil, ton parcours sont exemplaires et je pense utiles, ou en tout cas audibles, entendables auprès des auditeurs de l'émission. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Merci Lionel. Donc bonjour à tous. Donc Marc, je suis originaire de la région parisienne, du Val d'Oise précisément. Depuis une vingtaine d'années, pour la fin de mes études, donc je me suis installé à Québec, au Canada. Donc un parcours, je dirais, d'expatrié depuis maintenant une vingtaine d'années dans les services financiers, où j'ai étudié d'abord en France, en région parisienne, puis finir mes études au Québec. Où j'ai ensuite fait ma carrière professionnelle et ma vie personnelle également. Donc voilà pour la première présentation.
Qu'est-ce qui t'a poussé d'abord vers la finance, vers les études que tu as choisies ? Est-ce que ça a commencé au lycée ? Tu as su dès le lycée vers où tu allais ?
Alors au niveau du lycée, j'étais en sciences économiques et sociales au lycée, donc pour le bac, et j'hésitais entre justement le volet plus social, plus économique, puis le côté chiffres, plus peut-être de facilité avec les chiffres qu'avec les lettres, et vraiment voilà un intérêt des professeurs aussi vers la fin du lycée là, qui m'ont plus inspiré, je dirais, du côté économie, les possibilités côté finance également, donc m'ont poussé à aller vers cette filiale là au niveau universitaire, donc en Seine-Saint-Denis, au niveau plus gestion des banques et assurances.
Tu parlais des possibilités. Quelles étaient les possibilités ? Est-ce que tu parles des possibilités professionnelles ou alors de dire d'avoir avec tes valeurs humaines, humanistes, de dire la finance, c'est pas seulement que Wall Street ou la City de Londres. La finance aide, peut accompagner les êtres humains.
Alors oui, en fait, le volet finance, c'est jamais vraiment le volet, on va dire, trader de Wall Street qui m'a, on va dire, orienté ou inspiré, mais plus le côté très, je dirais, plus pratico-pratique, terre à terre, peut-être là, comment peut-être les de bons services financiers, que ce soit bancaires ou d'assurance, peuvent évidemment aider la vie quotidienne de tout un chacun. On se cachera pas, ça reste des organisations qui sont là pour faire de l'argent. Ce ne sont pas des œuvres de charité, que ce soit au Québec ou en France. Mais je pense qu'il y a quand même moyen par des valeurs et une mission quand même de l'entreprise qui peut être en adéquation avec justement des valeurs et de l'aide quand même à la société, même si à nouveau on est dans une logique quand même de faire des affaires là, mais c'est plus ce volet-là qui m'intéressait et aussi des perspectives de carrière qui peuvent être variées. Là, on associe beaucoup ces organisations-là à la finance, aux chiffres, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a de la communication, il y a des ressources humaines, il y a du marketing, il y a du développement au sein de l'organisation. Donc, c'est assez varié. Puis, il y a le volet aussi plus durabilité, environnement qui prend de plus en plus de place et tant mieux depuis surtout les 5-10 dernières années.
Est-ce que dans ta famille, est-ce que tu es une famille de banquiers ?
Bonne question, Lionel. En fait, pas du tout. Moi, mes parents, mon père était né entre les deux guerres. En fait, il y avait une génération plus âgée que ma mère. Et il a dû, dans une famille assez nombreuse à l'époque, travailler en usine à partir de 14-15 ans pour aider sa famille. Et il y a fait toute sa carrière dans de la manutention, dans des différents métiers quand même difficiles, très manuels. Et ma mère, venant de côté de ma mère dans Poitou-Charentes, également une famille nombreuse dans les années 50-60, a été plus portée sur des métiers également, soit d'aide ménagère, dans les centres de personnes âgées, dans les écoles, etc. Donc non, il n'y avait pas grand-chose dans la famille proche ou même un petit peu plus éloignée qui me prédestinait à la finance ou même à l'administration en général.
Donc le bac arrive et tu dois faire prendre des décisions. Décisions pour la suite de tes études. Tu avais déjà un projet d'études longues ou bien est-ce que tu voulais arriver le plus rapidement possible dans le milieu du travail?
En fait, après le bac, j'ai eu mes premiers petits boulots d'étudiant un peu comme tout le monde l'été, hein, donc soit dans les magasins. J'ai eu l'opportunité par un ami de l'école, en fait, du lycée, qui lui avait plus du genre de famille dans le milieu bancaire, de pouvoir rentrer aussi comme étudiant, comme employé d'été dans une succursale de banque, là, vraiment au service à la clientèle directe. Et puis, les questions après, je me suis posé, j'étais un peu, je dirais, partagé. Là, je voulais faire des études universitaires, mais je me voyais pas faire de la recherche ou pousser jusqu'à de très longues études, doctorat ou autre. Je voulais quand même quelque chose d'assez pratique, d'avoir des outils, je dirais, dans mon coffre pour pouvoir ensuite percer dans le marché du travail, là, donc avoir un premier bagage, mais c'était pas nécessairement une volonté de pousser 5 ans ou plus à l'université.
Et à l'université, il y arrive une chance, ou en tout cas une opportunité. C'est un échange, je crois, ou en tout cas une ouverture vers le Canada et plus précisément vers le Québec. Est-ce que tu pourrais parler de ce qui s'est passé, de comment tu as saisi cette opportunité-là, avec quel organisme, et puis quel âge tu avais surtout, qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là?
Alors oui, pour la dernière année en fait de la licence au niveau de l'université, donc on nous a présenté là dans à l'université en région parisienne les différentes opportunités de programmes d'échange qu'il y avait. Il y a évidemment Erasmus qu'on connaît très bien en Europe, et j'ai plusieurs collègues de l'époque qui y ont participé. Et on avait aussi ce qu'on appelle la CREPUC, là, donc qui est un peu l'équivalent d'Erasmus, mais avec les universités québécoises. Donc l'idée étant de pouvoir passer des cours dans les universités québécoises tout en restant inscrit à son université française, et pour pouvoir justement obtenir les cours étant reconnu pour obtenir son diplôme français, et pouvoir comme ça passer soit un semestre, deux semestres au Québec. Et l'Amérique du Nord, évidemment, j'étais allé les 2 années précédentes en voyage l'été, rencontrer une partie de ma famille, en fait, que j'avais jamais rencontrée, là, du côté de mon père, qui vivait aux États-Unis, dans l'Ouest. Et c'est des voyages quand même qui m'avaient marqué, qui m'avaient, ouvert sur l'Amérique du Nord. Et cette opportunité, là, justement, de l'échange vers le Québec, m'a intéressé avec quelques-uns de mes collègues aussi de l'époque, là, à l'université. On a été finalement un groupe de 4 en 2004 à participer à cet échange. Donc pour moi, à la ville de Québec, puis j'avais des amis qui sont allés à Montréal, donc on avait l'opportunité de se voir aussi, d'échanger nos expériences respectives durant les semestres.
Alors, tu as parlé de ton premier voyage aux États-Unis. Je crois, c'est peut-être un exemple pour toi, c'est ta tante. Enfin, tu raconteras. C'est ta tante qui est partie aux États-Unis pour une certaine raison, très belle, je trouve. Est-ce que déjà, or cette tante-là, ta famille proche autour de toi était pensée à pouvoir partir, ou est-ce que c'était plutôt des personnes qui restaient dans leur zone de naissance, de vie, parce que voilà, il faut prendre une décision, même si on part avec une institution, le CREPUC, c'est quand même partir. Donc est-ce que tu avais un exemple, et est-ce que cette tante dont tu vas parler a été un exemple pour toi?
Alors oui, parce que bon, comme je dis, moi, mes parents, j'étais fils unique, des parents, je dirais, modestes, mais on a jamais rien manqué. On n'a pas nécessairement beaucoup voyagé hors de la France. J'avais quelques oncles et tantes qui se sont un petit peu disséminés au travers de la France, mais pas sans de façon très, très lointaine. Et puis donc, cette tante que moi, j'avais jamais rencontrée, qui est partie en 1946. À la toute fin de la guerre à Paris, qui s'est mariée à Paris avant de partir avec son mari, qui était soldat américain. Donc, ils se sont rencontrés dans les bals qu'il pouvait y avoir à Paris à cette époque-là, quand ils avaient 20 ans. Donc, malgré la guerre, il y avait une jeunesse également, et il y a eu de belles rencontres. Donc, elle a passé les 60 dernières années de sa vie, finalement, dans l'Ouest américain, en Oregon précisément. Et elle avait jamais, à part sa mère dans les années 50, je crois, elle avait jamais revu un membre de la famille de La Haye depuis un demi-siècle finalement. Donc, moi, ça avait été de voir cette dame-là, qui était quand même relativement âgée au moment où moi j'y suis allé, avoir une si belle vie, si heureuse d'avoir fait ce choix, puis d'avoir rencontré son mari, d'avoir fondé une famille, d'avoir eu de belles personnes autour d'elle à son arrivée. Ça m'a quand même, j'irais, mis peut-être la décision un peu plus facile aussi, la motivation, de dire « Ah, déjà, j'avais une curiosité quand même envers l'Amérique du Nord, les opportunités. » Et de voir cet exemple-là qui a pu finalement vivre cette belle ville, je pense que ça a été un autre déclic pour emboîter le pas et donc essayer cette année au Québec par la suite.
Et alors, comment ça se prépare et comment on arrive? Dans quel état? Et voilà, raconte un petit peu, si tu veux, ces transformations sans doute dans ta tête de après ton voyage aux États-Unis et puis la préparation vers le Canada et cette année, qu'est-ce qui s'est ouvert dans ta tête pour te dire je suis certain, j'ai assez de force pour pouvoir partir pour la première fois longtemps loin des miens?
Oui, en fait, une fois les démarches plus administratives enclenchées avec aussi des amis de l'époque, là, ça a été quand même motivant de faire ces démarches-là à plusieurs, de s'échanger des choses un peu pratico-pratiques, là, puis de préparer un petit peu ce départ. Il y a eu des moments quand même, je dirais, d'émotion, là, de dire de quitter ses parents pendant au moins 8-9 mois minimum. Ça a été, je pense, difficile quand même pour eux, étant fils unique, justement, de se retrouver peut-être seul pour la première fois en 20 ans sans leur fils. Mais je pense la motivation de voir ailleurs, de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre une nouvelle expérience, puis quand même dans un cadre, je dirais, assez encadré, en tout cas assez rassurant. Là, je pense qu'il y avait un bon équilibre entre le côté un peu aventureux comme ça, mais dans la sécurité, je dirais, ça a été une belle étape. Puis après, il se passe des choses qui deviennent concrètes. Là, quelques mois avant le départ, de parler concrètement au téléphone à la personne qui allait me loger au Québec, donc une dame qui louait des chambres chez elle, ça se fait beaucoup. Ça se faisait beaucoup il y a une vingtaine d'années. Dans le quartier où il y avait l'université à laquelle j'allais. Donc déjà, ces premiers contacts réels avec les personnes sur place, puis ensuite, des échanges, que ce soit par écrit, avec l'université à Québec, etc. Ça, les choses commençaient à se placer et à me faire un petit peu anticiper ce voyage. Après l'achat du billet d'avion, comment, après les premiers repères là-bas, on n'avait pas, même si c'est pas la préhistoire, on n'avait pas les Google Maps d'aujourd'hui, donc il y avait une part d'inconnu aussi dans quel quartier je me retrouve, comment ça va fonctionner. Donc il y avait un peu des fois cette crainte, mais l'anticipation était quand même excitante aussi, là, de savoir que l'environnement allait complètement changer, puis pour une région que je voulais vraiment découvrir. Là, donc je pense que le positif, l'anticipation positive a vraiment pris le pas sur les appréhensions ou les craintes. Ça a été vraiment la motivation qui l'a emporté, malgré le stress et plus l'émotion familiale là, du départ.
Et parle-moi donc cette région, d'accord, mais quelles ont été les études que tu as choisies, l'échange, c'était sur quelle formation, et puis ce campus, où est-ce que c'était, dans quelle ville, dans quelle université, tout d'abord cette première question.
Donc oui, pour la dernière année de licence, donc on était vraiment en train de se spécialiser plus dans ce qu'on va appeler la gestion des banques et assurances, donc au Québec, un petit peu l'équivalent, là, les cours qu'on pouvait suivre et qui étaient reconnus pour le diplôme français, on était autour de ce qu'on va appeler les sciences de l'administration, donc la gestion, la finance, la comptabilité, ça peut aller jusqu'aux ressources humaines, etc. Moi, c'était plus finance et gestion. Et donc pour la dernière année de la licence. Et donc en question, l'université en question, c'est l'Université Laval à Québec, qui est une des plus anciennes universités francophones en Amérique du Nord et une des plus grandes. Il y a à peu près quand même un campus de 40 000 étudiants. Donc on peut s'imaginer un campus très à la nord-américaine, très espacé, très 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 beau, très agréable. Donc la ville de Québec, un peu pour situer la capitale en fait de la province du Québec, qui n'est pas la plus grande ville. On entend souvent parler de Montréal, qui est la métropole économique, mais Québec, moi que j'avais choisi, puis volontairement en fait, on avait le choix dans nos options là pour les différentes universités. Il y en a une dizaine, je crois, au Québec qui pouvaient nous accueillir. Et moi, j'avais une attirance pour des villes de taille plus peut-être moyenne, là, quand même des grandes villes, mais pas des métropoles de plusieurs millions d'habitants. Donc mon choix s'est porté sur Québec. Là, je m'étais documenté un petit peu avant de partir. Et donc voilà, donc une ville de taille intermédiaire, une université quand même assez ancienne, assez bien reconnue là-bas, et avec des cours plus en finance et gestion des compagnies comme les banques, les assurances.
Comment se passaient ces cours ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des différences avec la pédagogie, la didactique de l'enseignement universitaire français quand tu te trouvais à Laval, à l'Université de Laval ?
Alors oui, quand même, j'ai eu des cours en format qui pouvaient ressembler à certains égards à des cours que j'avais eus en France, en Seine-Saint-Denis, donc en amphithéâtre, avec quand même un nombre d'étudiants assez conséquent, mais je me suis vite rendu compte que la différence principale était sur la répartition entre le nombre d'heures en cours et le travail personnel ou en petits groupes. Le côté, la charge de travail personnel, de lecture, de travaux pratiques et aussi de travaux en petits groupes, des équipes de 3, 4, 5 étudiants étaient plus fréquentes que ce que j'avais pu vivre à l'université en France. Donc ça, c'est un choc au début et ça force, je dirais, à prendre plus l'autonomie, d'apprendre à gérer son temps. Et de dire, ça peut être facile de tomber, on est à l'étranger, c'est nouveau, on a envie de visiter, on a 10, 12, 15 heures de cours en classe par semaine. Mais quand on nous dit, pensez à peu près à mettre le double en termes d'études personnelles et de vos travaux avec vos coéquipiers, c'est vrai. C'est pas, disons, trop généreux, c'est vrai. Et donc, ça peut être facile au début, quand on est peut-être plus habitué au système en France ou sûrement dans d'autres pays aussi, de peut-être y aller plus mollo et de profiter du temps qu'on n'a pas en classe pour faire un paquet d'autres choses et se mettre peut-être en retard sur nos travaux. Donc au début, là, le premier mois, ça a peut-être été un peu comme ça que je l'ai abordé, puis je me suis vite rendu compte que si je voulais que ça fonctionne, il fallait que j'investisse le temps personnel aussi dans mes cours. Donc ça c'est une différence importante que j'ai trouvée.
C'est le moment de la pause musicale. On reparlera ensuite de ta vie québécoise et de ton métier là-bas, ta vie professionnelle. Tu as choisi alors un chanteur que tu m'as fait découvrir, qui s'appelle Tamino. Et la musique que tu as choisie, c'est la chanson The First Disciple. Voilà. Est-ce que tu peux parler un peu de ce Tamino et de nous dire ce qui te touche dans cette musique-là?
Oui, alors c'est un peu un hasard en fait. Le côté musique, je dirais, un peu folk, un peu lounge, un peu mélancolique, me plaît habituellement. Puis au détour, je pense, de Spotify ou de YouTube, dans les dernières années, je l'ai découvert. Puis j'aime beaucoup le style, le mélange entre les sonorités peut-être un peu plus moyen-orientales et plus modernes. M'ont beaucoup plu tout de suite, donc voilà, je pense en Europe, ça commence à être plus connu que ça l'est au Québec, mais j'ai eu la chance de le voir récemment au Québec.
Et donc, Tamino.
My old friend. these bones that you preach, they're being wasted as you speak. Remind me once more how they came to be your calling. Do you even know you're falling? You know that for you I'd give an arm. I'm one of few that never meant you harm. And I hate you like I eat fire and thunder. But from time to time I wonder, and lately I did wonder
Écoutez Le Fil du Fer sur Radio FM+, et aujourd'hui, au micro de l'émission, Marc Delahaye. Marc, parlons maintenant de ce qui t'arrive, de ce que tu décides de faire. C'est-à-dire que vient la fin de ton année universitaire. Qu'est-ce qui se passe les dernières semaines dans ta tête, les dernières semaines? Est-ce que tu as des décisions à prendre? Et quelles sont ces décisions? Et qu'est-ce qui y arrive?
Alors oui, évidemment, après les sessions, je dirais les semestres d'études à l'université, bah, vient le temps de décider de la suite. Hein. En général, bah, dans notre diplôme, on était évidemment encouragé à passer sur un stage par la suite ou éventuellement de trouver pour le marché du travail si on arrêtait à ce niveau-là. Puis, bah oui, il est arrivé le temps de la décision de dire bon bah moi mon visa d'étudiant, mon année d'étudiant se termine à Québec. Que fais-je de la suite? J'avais beaucoup aimé mon expérience de l'année, le cadre de vie, la société, la manière dont se passaient les choses à Québec me plaisait beaucoup. Donc l'idée de pouvoir peut-être continuer soit en mode stagiaire ou de trouver un premier emploi m'intéressait. Et donc, je suis retourné quand même en France, évidemment, l'été après mes sessions étudiantes. Et j'ai fait un permis, ce qu'on appelle un permis vacances-travail, auprès de l'ambassade canadienne à Paris. Il y avait quand même quelques milliers par an, là, de dossiers qui sont acceptés pour les permis vacances-travail. Et j'ai pu en décrocher un, donc, pour une durée d'un an. Là, je pense que c'était renouvelable une deuxième année par la suite. Donc, avec ce visa en poche, ça me permettait, au moins, c'était un visa ouvert qui me permettait de trouver un emploi, idéalement dans mon domaine, mais qui me limitait pas à un employeur qui m'aurait fait, disons, une offre au préalable. Donc, je suis retourné à la fin de l'été, après mes études à Québec, toujours. Et par un petit peu les premières recherches et tout ça, des agences de placement, ça se fait beaucoup aussi là-bas pour un petit peu fouiller le marché du travail, évidemment, et trouver une connexion entre des chercheurs d'emploi et des entreprises, là, de mettre en contact avec différentes personnes. Puis j'avais eu contact avec un gestionnaire là d'une compagnie d'assurance à Québec qui recherchait pour des emplois, on va dire des CDD, un équivalent de CDD ici, là, donc pour 6 mois, puis éventuellement renouvelable, dans une compagnie basée à Québec, siège social à Québec, donc Industrielle Alliance, service financier, dans mon domaine, à la base une compagnie d'assurance, mais qui offre différents services financiers, et j'ai pu rentrer vraiment au bas de l'échelle, au début de l'automne suivant mes études, Et de fil en aiguille, finalement, cette compagnie va s'avérer être mon employeur encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a été un peu le démarrage, je dirais, de la bascule là, entre les études et la vie professionnelle. C'est fait à Québec, d'abord dans un statut temporaire, puis éventuellement plus permanent.
Et quel est cet employeur d'hier et d'aujourd'hui? Quel est son domaine? Et quel est le poste que tu as eu quand tu es arrivé dans l'entreprise?
Oui, donc Industrielle Alliance, service financier, donc une compagnie d'assurance à la base qui s'est fondée à Québec, donc la capitale de la province, à la fin du 19e siècle. Donc quand même une assez vieille institution qui a évolué au fil du temps dans une compagnie vraiment canadienne et même nord-américaine. Donc, qui est devenue une des plus grosses compagnies d'assurance au Canada. Et donc, oui, en 2005, j'ai commencé à travailler comme technicien en administration. Donc, vraiment un niveau plus d'entrée, je dirais, malgré mes études. Moi, mon idée étant, mon CV était assez vierge à l'époque au niveau professionnel. Donc, d'accepter un poste relativement au bas de l'échelle même mes diplômes auraient peut-être pu me permettre d'aller un petit peu plus haut dès le départ, mais je voulais une première expérience concrète dans l'entreprise, quand même proche de mon domaine d'études, assez directement même dedans. Et vraiment, on était au niveau transactionnel, donc des transactions des clients, des conseillers financiers qui étaient acheminés au siège social. Il fallait analyser, valider, rentrer dans les systèmes, donc des choses quand même assez de base après une première formation à l'interne, mais qui m'ont permis de découvrir un peu l'organisation du travail au Québec, qui n'est pas évidemment le même qu'en France.
C'est-à-dire?
La première chose que je dirais là, qui m'a frappé, puis qui a été vraiment positif pour moi et qui m'a fait rester en fait dans l'entreprise, c'est la reconnaissance de l'expérience professionnelle au-delà des diplômes et de l'attitude vis-à-vis du travail. Donc de reconnaître assez rapidement en fait l'engagement, la volonté justement d'accepter des tâches qui, oui, évidemment, je voulais me développer dans mon domaine, mais qui sont aussi un petit peu moins stimulantes, et ça arrive dans beaucoup d'emplois, mais d'avoir une certaine humilité et tout ça, et d'accepter ces premiers postes, je dirais, de bâtir l'expérience, ça a été vite reconnu. Et les possibilités après d'évolution à l'interne, on nous en parlait déjà à l'époque, la mobilité interne dans cette entreprise, dire on veut l'encourager, on veut que les gens changent de département, changent de rôle, etc. Je l'ai vécu assez rapidement au bout d'un 6-7 mois de mon premier contrat. On m'a proposé autre chose et j'ai pu comme ça évoluer vers un poste à temps plein, en fait, un équivalent de CDI en France. Et j'ai pu, dans les années qui suivent, évoluer vers, justement, rapidement, un poste de mon niveau d'études, plus d'analyste, et éventuellement de gestion quelques années plus tard. Donc, c'est vraiment, je dirais, cette flexibilité, cette mobilité à l'interne, cette reconnaissance du travail, des efforts qui m'ont été les plus positives et qui m'ont encouragé à continuer.
Pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent rien à la finance et à l'assurance, nous sommes nombreux, nombreuses peut-être, sans doute. Et pour justement que tu puisses décrire ton évolution de carrière, tes changements, est-ce que tu pourrais dire, voilà, j'ai fait ça. D'abord, donc, tu as dit technicien administratif, expliquer ce que c'est. Puis après, je suis devenu ceci un an ou deux ans plus tard, etc., etc., jusqu'à ton poste d'aujourd'hui.
Alors oui, donc fin 2005, comme je le disais, un poste plus d'entrée, plus de, j'irais, de validation, de saisie administrative. On faisait, j'irais, du volume là, de recevoir les transactions des clients de la compagnie au niveau plus des produits d'épargne. Donc on sait que peut-être, on ne le sait pas, mais en Amérique du Nord, on est aussi sur un système qui est à la fois, d'épargne privée en vue de la retraite et de retraite publique. Donc il y a un réflexe peut-être plus grand de la part des gens de devoir épargner pour leur futur. Donc des compagnies comme celle où je travaille offrent ce genre de produits. Donc on reçoit des volumes conséquents de transactions chaque jour, chaque semaine. Donc j'ai fait ça pendant 7-8 mois, je dirais. Et ensuite, j'évolue vers un poste d'analyste au placement. Donc vraiment, là, le volet finance, là où moi, j'étais pas du côté des traders et de Wall Street, mais à nouveau plus en administration. Donc toutes ces transactions qui se font sur les marchés financiers, des achats, des ventes, etc. Ben, y a des équipes en arrière qui vont faire la conformité, qui vont s'assurer que les règlements sont respectés, qui vont faire la comptabilité adéquate, qui vont faire tout le volet administratif qu'on voit peu dans le monde de la finance, où on se dit c'est toujours ce qu'on nous présente dans les films, on achète et on vend rapidement des titres financiers, mais il y a aussi quand même des équipes en arrière qui valident et qui s'assurent que tout est fait dans l'intérêt du client aussi, final, que les gestionnaires de portefeuille soient bien accompagnés, n'outrepassent pas les règles et la réglementation qu'on leur impose. Donc tout ça demande quand même un niveau un petit peu plus élevé d'analyse, donc que j'ai fait pendant 3 ans. Et ensuite, est arrivé le moment, je dirais, où en finance, souvent, on va se spécialiser, là, où on va aller vers des certifications professionnelles là, qui sont reconnues soit en Amérique du Nord, même internationalement. Et là, on tombe après dans ceux qui veulent évoluer vers un poste vraiment plus de trader ou de gestionnaire actif. Et j'avais pas assez, je dirais, la passion de la finance pour aller vers ce genre d'évolution de carrière. Et est arrivée aussi l'opportunité de me développer plus en gestion. Vraiment de gestion d'équipe, de travail, d'organiser le travail, de prioriser. Et ça m'a interpellé. J'ai eu l'occasion en remplacement parfois de le faire auprès de mon gestionnaire immédiat de l'époque, quelques semaines, quelques mois. Et je pense avoir démontré certaines aptitudes, mais j'ai pu aller à nouveau à l'interne recevoir des formations pour développer le volet plus gestion d'équipe. Donc 2-3 années plus tard, là, j'ai pu accéder à un poste d'abord de chef d'équipe, donc de 6-8 personnes au niveau toujours finance, et ensuite de directeur adjoint. Donc directeur adjoint, on parle d'équipe peut-être d'une vingtaine, 20-25 personnes au sein d'un département, directement sous la direction du département en question. Et puis, j'étais quand même toujours dans mon volet, je dirais, finance, placement, côté administration des déplacements. Puis, on me voyait encore beaucoup comme l'expert du travail, finalement. Donc, de le faire plutôt que de le déléguer, puisque j'avais souvent les réponses, l'ayant fait moi-même, aux questions, aux enjeux qui pouvaient se poser à chaque jour, chaque semaine. Donc après, pour se développer davantage pour la gestion, est arrivé le moment où je dis, bon, est-ce que je reste dans ce département-là ou peut-être à l'interne, je vais vraiment changer, ne plus être vu comme l'expert du contenu. Et cette opportunité-là s'est présentée après 8-9 années de carrière, je dirais, où j'ai changé pour un poste toujours de gestion, mais au niveau de l'assurance vie, donc qui est un gros secteur de la compagnie, puisque c'était d'abord une compagnie d'assurance avant d'être une compagnie de services financiers. Et l'assurance vie, à part quelques concepts de base, j'y connaissais pas grand-chose. Je n'ai pas mis les mains dedans. Et c'était voulu, en fait. L'idée étant de pouvoir ne plus être vu comme l'expert, mais vraiment être capable de passer le plus clair de mon temps à la gestion et à développer mes habiletés de gestion. Donc, ce que j'ai fait pendant à peu près 4-5 ans dans cette équipe-là est arrivé, là, on arrive aux années 2020, je dirais. Il y a eu la COVID, il y a eu aussi la gestion à distance pendant deux années complètes à peu près, qui a amené son lot de défis, mais aussi de nouveaux apprentissages, puisque de gérer des équipes complètement à distance et être soi-même à distance, ça a été tout un réapprentissage accéléré. Et puis en même temps, je pense que la compagnie, comme d'autres, a saisi l'opportunité d'utiliser finalement cette crise, ce changement, pour dire on est rendu certainement à faire un virage numérique. C'est assez à la mode les transformations numériques, mais je pense que la COVID a accéléré le tout pour numériser des processus qui étaient encore dans le milieu de l'assurance. On peut s'imaginer le conseiller financier avec sa mallette et ses papiers qui rencontre son client et qui ensuite envoie la paperasse au bureau principal. C'était encore une réalité jusqu'à la COVID. Et donc, il est arrivé un très gros projet là, de transformation numérique sur 7-8 ans là, qui a commencé au tout début de la COVID pour le secteur de l'assurance vie où je travaillais. Et on m'a proposé de participer à ce grand projet-là de transformation numérique. Et j'ai accepté, évidemment, ça, j'avais de l'intérêt à bâtir aussi l'avenir, là, de ne pas être seulement en gestion des processus actuels, mais peut-être de pouvoir justement participer à quelque chose de plus de transformateur un petit peu pour l'organisation. Donc depuis 2022, là, j'occupe ce poste là de conseiller stratégique, donc plus au niveau du projet là de transformation de notre secteur, et avec un volet un petit peu aussi de gestion, parce qu'il y a priorisé les initiatives d'un projet qui va durer pendant encore plusieurs années, et en même temps d'utiliser quand même mon expertise qui s'est bâtie au fil des ans dans ce domaine-là. Donc finalement de mélanger des habiletés de gestion et des connaissances plus techniques du domaine.
Moi, je suis toujours impressionné par cet esprit de reconnaissance du travail et des attitudes comme on dit à certains endroits, le savoir-être, le relationnel, et de pouvoir donner sa chance, tout en sachant qu'on sait quand même à qui on passe le volant. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui, chez toi, dans ton éducation familiale, mais après plus tard, quand tu as été un homme indépendant et autonome, tes traits de caractère t'ont permis de pouvoir dire oui aux possibilités, mais aussi de pouvoir dire non à d'autres choses où tu disais peut-être, j'entends que tu prends des décisions par rapport à ce qui te porte au cœur, à ce que tu identifies comme étant avec des valeurs, avec peut-être des principes.
Oui, en fait, je me rends compte que ces valeurs-là, il y a l'humilité là-dedans, il y a le fait de quand même se faire confiance en ses capacités. J'ai fait des études, j'ai été encouragé par mes parents à en faire. Eux, à leur époque, dans leur contexte familial, etc., n'ont pas eu nécessairement la chance d'en faire alors qu'ils auraient voulu. Mon père m'avait souvent dit qu'il aurait voulu faire des études si le contexte avait été différent. Donc d'être curieux, je dirais, de vouloir essayer des nouvelles choses, mais en même temps d'être réaliste. Moi, j'ai toujours... déjà, je suis capable d'être entreprenant, mais en étant quand même, en analysant les situations et en m'assurant d'avoir assez d'informations pour y aller. Donc, je me jette pas dans le vide, nécessairement. C'est pas dans ma nature. Donc, je dirais cet équilibre entre connaître mes limites, les choses que je maîtrise bien, puis les choses que il y a du monde qui maîtrise bien mieux que moi et que je me sens pas nécessairement légitime ou à faire. Ça, je le garde toujours. Je l'ai toujours gardé en tête. Et de faire confiance, comme je le disais, des opportunités, j'ai eu cette chance, il s'en est présenté plusieurs dans l'entreprise où je travaille toujours et dans d'autres aspects de ma vie. En ayant eu cette confiance assez fréquemment, justement, dans mon parcours, c'est un engrenage, hein, ça tourne. Hein. L'ayant reçu, moi, je fais confiance aussi. Là, je me dis, fondamentalement, si je continue à démontrer ma volonté, mon engagement envers l'entreprise, les collègues, etc., on va me reconnaître pour ce que je suis, mes connaissances, mais aussi mon attitude, et ça va me permettre de continuer à évoluer et d'éventuellement, si j'ai envie de changer de secteur, de changer de rôle, j'ai fondamentalement confiance qu'on va me le permettre, que je vais pas rester bloqué pendant des années dans quelque chose qui ne me plairait plus. Donc, je pense que c'est un bagage de vie, là, de valeurs qui me sert et qui continuera de me servir.
Je te remercie pour cette discussion que nous venons d'avoir, ta présentation de ta vie professionnelle au Québec, de ta formation. C'était donc le fil du fer avec Marc Delahaye.